à Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h31 universel. Nous sommes mercredi 28 mars 2018, au sommaire. Encore des civils victimes de violences dans l'est de la RDC. L'armée accuse les rebelles ADF d'avoir tué 10 personnes à Beni. En Guinée équatoriale, l'opposition dénonce les conditions de détention de leurs membres emprisonnés. Au lendemain de la visite du leader nord-coréen Kim Jong-un en Chine, le président Trump se dit confiant que Pyongyang va abandonner le nucléaire. En partie magazine, on fera le point sur la décision américaine de mettre fin au statut protégé des Libériens vivant aux États-Unis.
Ils travaillent ici, ils envoient de l'argent, ils supportent leur famille. Bon, ça, c'est un avantage considérable.
Et ne ratez pas également les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Nouveau massacre de civils à Beni dans l'est de la RDC. 10 personnes ont été tuées et au moins 5 disparues après l'incursion des présumés rebelles ADF. Des leaders de la société civile demandent plus de protection de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, ainsi que de l'armée congolaise. On fait le point avec Charlie Kasereka, notre correspondant dans la région.
Pendant plus de 3 heures, les assaillants munis de machettes et armes à feu ont opéré dans les quartiers Rwenzori, situés au nord de la ville de Beni. 11 corps, dont un présumé membre de la rébellion d'islamistes et des ADF, ont été retrouvés et acheminés à la morgue de l'hôpital général. Parmi les victimes, il y a des femmes, des jeunes et un bébé, indique le président de la société civile à Beni. Gilbert Kambale ajoute qu'au moins 5 personnes manquent à l'appel dans ces quartiers. Elles auraient été amenées par les assaillants. En colère, la population est descendue dans la rue pour manifester son indignation ce mercredi suite à ce nouveau carnage, alors que l'armée a annoncé le lancement d'une opération de grande envergure au mois de janvier dernier contre les groupes armés dans cette région de Beni. Des véhicules de la mission onusienne ont été caillassés par la population en colère et les activités commerciales paralysées. Les manifestants ont été dispersés par la police, soutenus par l'armée, et on signale quelques arrestations des manifestants. Charlie Kasereka, Goma, VOA Afrique.
La justice congolaise annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre en RDC. Comment voulez-vous qu'un individu de nationalité italienne puisse se présenter devant nos bureaux pour avoir le passeport, la carte d'électeur? Tout ce temps qu'il a passé à la tête de la province du Katanga, il se prévalait d'actes faux, de faux documents, a déclaré Flori Kabange Numbi, procureur général de la République en RDC. Au Ghana, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans les rues d'Accra pour protester contre un accord de défense conclu avec les États-Unis la semaine dernière. L'accord, approuvé le 23 mars par le gouvernement du président Nana Akufo-Addo, est vivement critiqué par l'opposition qui dénonce une atteinte à la souveraineté du pays. Washington et Accra ont démenti les rumeurs selon lesquelles les États-Unis projettent d'installer des bases militaires au Ghana. En Guinée équatoriale, des militants d'un parti d'opposition dissous en février dernier affirment avoir été torturés. Des accusations confirmées par des défenseurs des droits de l'homme, mais fermement démenties par le pouvoir à Malabo. John Lyndon.
C'est à Guantanamo, surnom du commissariat central de Malabo, que plusieurs des 38 militants du parti d'opposition Citoyen pour l'innovation disent avoir subi des mauvais traitements du 28 décembre au 3 janvier. Les faits remontent au 24 décembre. Le régime de Malabo annonce alors avoir déjoué une tentative de coup d'État. Pour ce régime, les commanditaires ne sont autres que des Équato-Guinéens exécutant les ordres des étrangers, notamment des Français. Les militants du Parti Citoyen pour l'Innovation arrêtés après une tentative de rassemblement sortent aujourd'hui de leur silence. « Nous avons été torturés pendant une semaine », affirme Ernesto Obama Ondo, 42 ans. Mireille Buela Eka, 24 ans, jeune membre des Citoyens pour l'Innovation, dit également avoir reçu 100 coups de fouet en détention après avoir été attaché par les mains et les pieds, un traitement subi par plusieurs autres opposants. Les militants des Citoyens pour l'Innovation ont été torturés. Nous envisageons une action en justice, a déclaré l'avocat équato-guinéen Fabien Soué. Saisi, l'Organisation des défenses et des droits de l'homme Human Rights Watch souhaiterait que les Nations Unies ouvrent une enquête sur ce dossier.
En Éthiopie, la coalition au pouvoir a choisi comme nouveau leader et donc prochain premier ministre Abiy Ahmed. C'est un gage d'apaisement à l'égard de l'ethnie Oromo dont il est issu. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Abiy Ahmed devrait succéder au premier ministre Haïlé Mariam Desalegn qui a démissionné en février. Le choix de M. Abiy doit être confirmé par le Parlement, entièrement contrôlé par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, une coalition de quatre partis. De nombreux Éthiopiens, en particulier les Oromo, espèrent qu'Abiy saura modifier le mode de gouvernement autoritaire pratiqué par le pouvoir en place. Un mouvement de protestation avait débuté fin 2015 en région Oromo. Ces manifestations étaient l'expression d'une frustration des Oromo et des Amara, qui représentent 60% de la population face à ce qu'ils perçoivent comme une surreprésentation de la minorité tigréenne au sein du pouvoir. La répression a fait au moins 940 morts. Haïlé Mariam Desalegn a annoncé en janvier une amnistie qui a permis la libération de milliers de prisonniers. Mais au lendemain de sa démission, un nouvel état d'urgence interdisant toute manifestation a été décrété. Des opposants dont le journaliste Eskaider Nega, qui avait été libéré en mars après plus de 6 années de prison, ont à nouveau été arrêtés dimanche dernier.
Les Égyptiens votent ce mercredi pour la 3e et dernière journée du scrutin présidentiel. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sissi, est assuré de l'emporter. Le taux de participation représente l'unique enjeu. Si une certaine affluence a été observée lundi à l'ouverture du scrutin, les électeurs ne se sont pas bousculés mardi et aujourd'hui en milieu de journée dans certains bureaux de vote au Caire et dans le delta du Nil. C'est ce qu'ont constaté des journalistes de l'AFP. Al-Sissi, 63 ans, a pour seul adversaire Moussa Mustapha Moussa, 65 ans, le chef d'un petit parti libéral méconnu du grand public et partisan affiché du régime. Par ailleurs, une commission britannique indépendante accuse les autorités égyptiennes de détenir l'ancien président Mohamed Morsi dans des conditions qui ne répondent pas aux normes internationales et qui pourraient conduire à sa mort prématurée. Il est aujourd'hui maintenu à l'isolement 23 heures par jour dans des conditions de détention qui pourraient relever de la torture ou du traitement cruel, inhumain ou dégradant, affirme le rapport de la commission britannique. Deux experts en art ont été arrêtés en Espagne. Ils sont accusés d'avoir dirigé un réseau qui a coulé des objets antiques volés sur de célèbres sites archéologiques en Libye par des groupes liés à l'organisation État islamique, selon le ministère espagnol de l'Intérieur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement français a nommé un nouveau préfet à Mayotte alors que le mouvement de contestation dans cette île française de l'océan Indien est entré dans sa 6e semaine. Mayotte est agitée par un mouvement social qui dénonce l'insécurité et l'immigration clandestine venue des Comores, où le revenu moyen par habitant est 13 fois inférieur à celui du département français. Les autorités françaises ont multiplié dernièrement les expulsions de Comoriens sans papier. Moroni a riposté la semaine dernière en refusant de laisser rentrer sur son territoire ses citoyens refoulés. Le président américain réagit à la visite surprise de Kim Jong-un en Chine. Donald Trump a estimé qu'il y avait à présent une bonne chance de voir les dirigeants nord-coréens abandonner ses armes nucléaires. Le point avec Lionel Gaïma.
Dans un tweet, le président américain a également indiqué avoir reçu la veille un message du président chinois Xi Jinping, selon lequel sa réunion avec Kim Jong-un s'était très bien passée et que M. Kim avait hâte de le rencontrer. Le président Trump a ajouté que la pression et les sanctions doivent être maintenues à tout prix. Le président Trump a lui-même créé la surprise en acceptant de rencontrer Kim Jong-un après plusieurs échanges de propos très durs entre les deux dirigeants. Lors de sa première visite à l'étranger, Kim Jong-un s'est prononcé à Pékin pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et a confirmé la perspective d'un sommet avec le président américain Donald Trump. Avec un jour et demi d'incertitude, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a confirmé tôt ce matin la visite à Pékin du leader nord-coréen. Ce dernier s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. La Chine est le plus important allié de la Corée du Nord. Pyongyang a procédé ces dernières années à une série d'essais nucléaires et des tirs de missiles susceptibles d'atteindre les États-Unis, malgré les sanctions des Nations Unies.
Et puis l'avocat de l'actrice de film porno Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump, veut faire témoigner le président américain et son avocat personnel, Michael Cohen, avec qui elle a signé un accord de confidentialité sur cette affaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est la Minute Éco avec Eric Manelakiza.
La Côte d'Ivoire et le Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Ils conviennent d'améliorer le prix d'achat de la fève aux producteurs et vont annoncer chaque année de manière concomitante le prix aux producteurs. Abidjan et Accra vont aussi lutter contre la contrebande. La holding de la famille royale marocaine, la Société nationale d'investissement, a changé de nom pour devenir Almada. Ceci marque l'aboutissement de la mutation profonde de la holding qui ambitionne de devenir un fonds d'investissement panafricain. Le Qatar va signer un accord de 4 milliards de dollars pour la gestion du port soudanais en mer Rouge de Souakin au Soudan. L'accord vise booster son développement et ses activités. En 2017, Khartoum a convenu avec la Turquie de réhabiliter une partie du port, de construire un quai naval pour l'entretien des navires civils et militaires. La croissance des États-Unis est en hausse au quatrième trimestre et dépasse les attentes des analystes. Elle frôle l'objectif de 3% du président Donald Trump. Le produit intérieur brut américain a progressé de 2,9% à rythme annuel, contre 2,5% lors de la deuxième estimation. Les analystes tablaient sur 2,6%. Une consommation plus forte et des investissements des entreprises plus importants expliquent cette performance.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
L'Espagne atomise l'Argentine en match amical.
6-1, la facture a été salée hier soir à Madrid. Les champions du monde 2010 et Isco, auteur d'un triplé, ont pulvérisé une Argentine, il est vrai, orpheline de Lionel Messi, blessé, qui regardait le match des tribunes. C'est la troisième défaite la plus lourde de l'histoire pour les Argentins, inquiétant à 3 mois de la Coupe du Monde.
Le Brésil aussi est en forme.
Et oui, avec beaucoup d'assurance, le Brésil a pris sa revanche hier contre une pâle équipe d'Allemagne. Victoire 1-0 à Berlin, 4 ans après la fameuse demi-finale perdue au Brésil, 7-1. C'est Gabriel Jesus qui a été l'unique buteur de cette rencontre.
Et les équipes africaines ?
Eh bien, le Maroc n'a pas souffert du turnover imposé par Hervé Renard contre l'Ouzbékistan. Une victoire 2-0. Ayoub El Kaabi a brillé pour sa première titularisation. L'avant-centre de la renaissance sportive de Berkane a marqué son premier but. La Serbie s'est rassurée en battant le Nigeria 2-0. C'est Mitrovic qui a inscrit un doublé. Les Aigles de Carthage ont battu le Costa Rica 1-0. Tandis que les Pharaons d'Égypte ont perdu contre la Grèce sur le même score 1-0. Enfin, nouveau match nul pour les Lions de la Teranga qui ont pioché face à la Bosnie-Herzégovine. Match nul 0-0.
Controverse raciste en marge du match Russie-France.
Et oui, les Bleus l'ont emporté 3-1 à Saint-Pétersbourg, mais la FIFA est en train de récolter de potentielles preuves après les cris de singes entendus dans le stade contre Ousmane Dembélé. L'encadrement de l'équipe de France n'a pas apporté de commentaires dans l'immédiat, ni les joueurs concernés sur les réseaux sociaux.
Alex Song s'entraîne à New York.
En rupture de contrat avec le Rubin Kazan, Alexandre Song s'entraîne actuellement avec les New York Red Bulls, la franchise de la MLS. Il ne s'agit toutefois pas d'un essai avec l'équipe new-yorkaise pour le milieu de terrain international camerounais, mais plutôt d'une remise en forme en attendant une offre prochaine, quoique l'option de voir l'ancien gunner et Blaugrana, âgé de 30 ans, jouer en MLS ne serait pas totalement écartée.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Privé de ses stars, le champion en titre Golden State gère la fin de la saison régulière et a concédé une troisième défaite en 4 matchs face à Indiana, 80-92. Houston a surclassé les Bulls de Chicago, 118-86. Portland continue d'impressionner avec son succès à la Nouvelle-Orléans, 107-103. San Antonio tremble à nouveau puisque les Spurs ont concédé une deuxième défaite de suite à Washington, 106-116. Enfin, Cleveland a déjà son billet en poche pour les playoffs et les Cavaliers sont complètement passés à côté de leur match face à Miami, 79-98.
Merci Nicolas.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour à présent. Le prix du pain a augmenté de 50% à Kinshasa depuis lundi. La baguette est passée de 200 à 300 francs congolais. Malgré la sommation du ministre de l'économie au boulanger de la ville, le prix n'a pas baissé. Vendeuses et consommateurs s'en plaignent. Reportage de Thierry Kambondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les Kinois ont été pour la plupart surpris de constater lundi matin la hausse à 50% du prix d'une baguette de pain à la boulangerie. Très vite, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, étant donné qu'il s'agit d'une denrée alimentaire de première consommation. Aussitôt saisi du problème, le ministre de l'économie, Joseph Kapika, a réuni les principaux boulangers opérant dans la capitale de la RDC. Malheureusement, ce mardi matin, les prix ne sont pas retombés tels que constatés auprès de quelques vendeuses de pain. Certains boulangers ont même, pour manifester leur opposition à la décision du ministre, refusé de livrer du pain à ces quelques vendeuses que nous avons rencontrées.
Il n'y a pas de pain. Les boulangers n'ont pas fourni le pain. Voilà pourquoi on n'a pas pris le pain. Le ministère a décidé, mais on n'y sent rien. Le pain coûte toujours 300 francs. On va faire avec. Il faut que le prix du pain baisse. Ce pain de 300 francs nous pose des sérieux problèmes. Comment faire pour donner aux enfants? Moi, j'ai 6 enfants. Nous avons voulu arrêter de passer la commande, mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. On fait que le prix baisse. La quantité n'a pas changé alors que le prix a été révisé à la hausse. Ce n'est pas normal.
Cette situation, observée depuis 48 heures à Kinshasa, a provoqué la colère de l'Union pour la défense des droits des consommateurs du Congo. Son coordonnateur, Chief Chipamba, appelle le ministre Kapika à ses responsabilités.
L'Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo n'est pas d'accord avec cette façon de faire, tant dans le chef du gouvernement que dans le chef des opérateurs économiques du secteur de la panification. On est surpris de constater que le ministre s'avoue surpris par la hausse de prix. Et il réunit les opérateurs économiques du secteur de la panification de pain en l'absence de consommateurs qui maîtrisent au mieux leurs problèmes. Et comme dit hier, aujourd'hui, on se réveille, quoi que le ministre avait sursis à la hausse ou à l'augmentation du prix de pain, ce matin, les opérateurs économiques qui étaient avec lui dans la réunion se sont entêtés. C'est entre autres parce que nous, consommateurs, on n'est pas là. Et puis, c'est l'inefficacité des décisions prises par le ministre.
Les boulangers qui n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro évoquent en off l'augmentation du prix de la farine de froment pour justifier leur décision. Nous sommes donc retournés voir le ministre de l'économie ce mardi pour lui faire part de l'inefficacité de sa mesure sur le terrain. Joseph Kapika a rappelé les boulangers à son tour, à qui il a, d'un ton menaçant, rappelé le caractère strict de cette surséance.
Grande était ma désolation de voir que cette décision n'a pas été respectée. Les uns ont maintenu leur prix au mépris de ma décision. Les autres ont purement et simplement fermé. C'est comme ça que j'ai tenu à convoquer cette réunion pour confirmer la décision d'hier, à savoir sursoir à toute augmentation des prix du pain.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis. Ce mercredi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. 10 civils ont été tués à Beni, en RDC, lors de combats entre ADF et militaires, au lendemain du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Les attaques meurtrières durent depuis plus de 20 ans dans l'est du pays. Selon vous, comment pacifier l'est de la RDC ? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook. Appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Au Tchad, la 4e République sera marquée par un régime présidentiel intégral avec un président qui sera élu pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois à partir de 2021. Le poste de Premier ministre sera aussi supprimé. Ce sont là quelques-unes des plus importantes décisions issues du Forum national dont les travaux ont pris fin hier en N'Djamena. L'opposition, qui n'a pas participé aux travaux, accuse la majorité présidentielle de vouloir maintenir le président Idriss Déby au pouvoir. Pour une réponse, Irénée Herman Ingbo a joint Abderrahmane Yanabaye de la majorité présidentielle.
Je pense que les conclusions sont positives. Ils prennent en compte beaucoup de choses qui peuvent améliorer les conditions, je dirais, de vie en général, même le fonctionnement des institutions et notamment les retombées pour le peuple tchadien. Je pense que c'est positif.
Oui, justement, parlons de retombées. Que peut-on espérer? Qu'est-ce que les Tchadiens peuvent espérer de ce forum?
Bon, d'abord, on a réduit un certain nombre des institutions dont on a élagué les institutions qui ne sont pas performantes. Ça va réduire les traits de vie de l'État. Deuxièmement, on a beaucoup parlé de la bonne gouvernance de l'État de droit et des libertés. Là, on a rationalisé au niveau de la justice, également le fonctionnement de la justice. Et c'est une bonne chose. Nous avons constitutionnalisé la Commission nationale des droits de l'homme. On l'a mis au niveau des institutions autonomes, qui est reconnue par la Constitution du Tchad. Ce n'est pas rien pour un défenseur des droits de l'homme que je suis.
Alors, que répondez-vous à ces Tchadiens, notamment ceux de l'opposition, qui pensent que c'est seulement une opportunité pour maintenir le président Déby au pouvoir?
C'est une vision erronée, puisque la constitution qu'on veut remplacer, elle donne un mandat de 5 ans, renouvelable, sans limite. Donc, le fait de dire qu'on veut donner une situation à vie du président, un propos qui ne correspond pas à la réalité, puisque maintenant, on peut, avec 5 ans, on peut fonctionner jusqu'à 30 ans, 40 ans, si on veut. Là, on a limité le mandat de 6 ans limité à une fois. Donc, la question n'est pas là.
Donc, pour vous, le président Déby peut rester encore au pouvoir jusqu'en 2033?
Non, mais vous avez dit peu. Quand on dit peu, il n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation d'aller faire 2 mandats. S'il peut se retirer à tout moment, il ne peut pas être candidat au bout d'un mandat. Donc c'est un faux procès, un faux débat, un procès d'intention.
Mais c'est une opportunité qui lui est offerte, n'est-ce pas?
C'est un potentiel. Il y a des présidents qui ont renoncé. Je vois le président Dos Santos a quitté, non? Alors qu'il avait la possibilité de continuer. Et d'autres présidents aussi. Donc rien n'empêche le président de décider, s'il le veut, de quitter avant. Moi, je pense qu'ils ont raté le coche. Ils doivent venir dans la salle et défendre cette position-là. Je pense que peut-être que les choses allaient être inversées, mais quand ils ne sont pas là, les absents ont toujours tort.
Le poste de Premier ministre avait été adopté pour assurer l'équilibre à la fois politique et régional, mais aujourd'hui est supprimé. Ne craignez-vous pas un éventuel déséquilibre?
Non, mais nous allons travailler sur les institutions de façon à ce qu'il y ait un équilibre. Le Tchad n'a pas fonctionné toujours avec un premier ministre. Le régime de Tombalba, il n'avait pas un premier ministre.
C'était Abderrahmane Yanabaye de la majorité présidentielle tchadienne.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Lors d'une visite dans le sud-ouest anglophone du Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, s'est dit porteur d'un message de dialogue avec ceux qui savent que le Cameroun est un et indivisible. La situation sécuritaire s'est dégradée depuis la proclamation de l'Ambazonie il y a 6 mois, puis de l'extradition de 47 séparatistes arrêtés au Nigeria. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint à Yaoundé le politologue Moussa Ndjoya.
Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, s'inscrit là essentiellement dans la continuité du discours du président Biya, le 31 décembre 2017. Donc, M. Atanga Nji a répété ces propos-là. Mais c'est très embarrassant parce qu'au début de la crise, c'est le même Atanga Nji qui était allé sur les antennes pour affirmer qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Maintenant, on va dialoguer sur quoi? Alors que vous avez dit qu'il n'y a pas de problème anglophone.
Alors, s'il y avait dialogue, qui seraient les interlocuteurs? Le chef du mouvement n'est-il pas incarcéré?
Le mouvement de revendication anglophone est un mouvement qui a plusieurs leaderships. C'est une panoplie qui va des républicains fédéralistes jusqu'aux sécessionnistes. Vous avez Maître Abobala qui a été libéré dans le cadre de différentes mesures prises en vue de l'apaisement de la situation. Et vous avez également ceux qui sont détenus officiellement, tels que le Manche Bibiti, en qui la jeunesse se reconnaît, ceux qui ont envahi la rue à Bamenda. Donc vous avez le leadership de la diaspora, les Barita, les Ayuktabe, etc. Le leadership jeune, sécessionniste national, présent sur le terrain, incarné par Mancho Dibisi, et le leadership fédéraliste républicain, incarné par M. Abobala, Fontaine et Aya Poladine. Donc je pense que tous ces différents types d'acteurs doivent être invités à la table du dialogue pour qu'on ait des solutions véritablement acceptées de tous.
Si effectivement il y avait des discussions avec toutes ces personnes dont vous avez parlé, ces mouvements, est-ce que l'on n'aurait pas toujours en arrière-fond la ligne dure, finalement, on va dire les ambazoniens, qui continueraient à créer l'insécurité dans ces régions-là?
Le problème avec l'Amazonie aujourd'hui, vous avez maintenant des groupements, on peut dire des délinquants, qui se sont invités à la cause et qui, profitant du trouble sécuritaire, a décidé de s'autodéfinir un agenda qualifié de criminel, parce que tous les actes auxquels ils se livrent n'ont pas toujours un sens politique et ne sont pas toujours acceptés par le leadership, qu'ils soient sécessionnistes ou fédéralistes. On a vu certains communiqués justement de Marc Barreta ou bien de Tassan qui essayaient de dire comme cela qu'ils n'étaient pas d'accord avec un certain nombre d'agissements, notamment la prise en otage du PCA du DC Board, qui était libéré en principe contre rançon. Ils ont dit qu'eux, ils ne participent pas à ce genre d'actes. C'est le même cas connu Boko Haram au Nigeria. Donc, le problème aujourd'hui, c'est d'appeler les acteurs effectivement identifiés comme leaders d'opinion dans la zone anglophone. Et une fois qu'on a engagé un véritable dialogue avec eux, je me dis qu'avec la collaboration des populations, si elles sentent que leurs aspirations sont effectivement prises en compte et discutées de manière claire, honnêtes et transparentes, pourront effectivement participer à la lutte contre ces délinquants-là qui se sont invités à ces événements.
C'était le politologue camerounais Moussa Ndioya, joint à Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les Libériens vivant aux États-Unis vont perdre leur statut protégé selon une annonce de l'administration Trump. Depuis 1991, les ressortissants du Libéria, alors en guerre civile, bénéficiaient d'un statut de protection temporaire qui permet de travailler légalement aux États-Unis sans titre de séjour. Mais dans le cadre d'un durcissement de la politique migratoire américaine, cette protection ne sera pas reconduite après son expiration le 31 mars. Pour une analyse, j'ai joint à New York le militant des droits des migrants Bakary Tondja.
C'est une atteinte très grave au principe humanitaire parce que c'est une communauté qui encore mérite cette protection et parce que l'argument avancé par le gouvernement est qu'actuellement la situation s'est normalisée au Libéria, ce qui n'est pas du tout correct.
La guerre civile est quand même terminée depuis longtemps au Libéria et c'est un pays qui a organisé des élections sans problème récemment.
Oui, en fait, nous devons reconnaître les progrès ou accomplis, les acquis qui sont actuellement une réalité. Ces acquis doivent être consolidés et non créer une situation de crise qui allait compromettre. Bon, nous savons que le fait d'organiser des élections ou de reconstruire un pays après une guerre civile aussi dévastatrice, bon, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus qui est très long. La communauté qui est actuellement présente ici aux États-Unis peut y contribuer énormément. Bon, premièrement, ils travaillent ici, ils envoient de l'argent, ils supportent leur famille. C'est un avantage considérable. Bon, alors que si, par exemple, on devait obliger ces personnes à retourner dans un pays qui n'a pas la capacité de les accueillir, ça va créer une situation de crise et ça va créer un manque considérable parce que les contributions qu'ils faisaient pendant qu'ils travaillaient ici ne seront plus disponibles au pays. Puis en plus, sur le plan purement humanitaire, ce sont des personnes qui ont travaillé ici pendant plusieurs années. Ils ont organisé leur vie ici.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce qu'il y a des moyens de recours possibles, surtout au niveau individuel?
La communauté africaine et ses alliés et tous les défenseurs des droits de l'homme ou des droits des immigrants vont continuer à se mobiliser. Et par ailleurs, bon, c'est très important également au niveau individuel que les gens essaient de se mettre dans les dispositions pour se mettre à l'abri de certaines surprises.
déjà à New York et c'est cet élément qui met fin à cette édition réalisée par Georges Léonard Sagnon à la console d'Anne Crafton. Présentation Abdulrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Afrique, les infos.